français est fier de remporter deux distinctions au Grand Prix Stratégie de l'Innovation Média 2024.
Meilleure initiative en radio pour l'After Foot avec l'After Ouvre les Horizons et meilleure initiative sur un média digital pour les radios digitales événementielles d'RMC.
Bravo à toutes les équipes et merci pour votre fidélité. RMC, bien plus qu'une radio.
L'After Foot sur RMC avec Mastercase Foot. Personnalisez votre coque de smartphone aux couleurs de votre club sur mastercasefoot.fr.
Bienvenue à vous tous, équipés d'une radio DAB+, qui écoutez désormais RMC à Paimpol et ses environs. RMC avance en DAB+, partout en France. RMC, bien plus qu'une radio.
RMC, il est minuit. L'After revient demain soir à 20h. Bonne nuit à tous.
Sur RMC, la nuit, RMC, c'est le meilleur de la journée. Rediff.
C'était ce matin sur RMC.
Arnaud Demange, mon invité ce matin dans le face-à-face. À 8h30, c'est Alain Boer, le professeur de criminologie au Centre National des Arts et Métiers, spécialiste des questions de sécurité.
Et oui, car on est encore sur une actualité délirante de fun ce matin. Oh là là, des bars de LOL en cascade. Et ouais, police, ce matin, c'est le plus grand cabaret de l'actu. Il y a du rire et de la bonne humeur. Il y a des émeutes en Nouvelle-Calédonie, des attaques de fourgons pénitentiaires, la guerre au Proche-Orient, le premier ministre de Slovaquie qui prend une balle, et Alain Boer qui va jongler avec tout ça pendant 25 minutes, c'est extraordinaire. Incroyable.
C'est
ça va être exactement ça.
De l'actu. Non, mais
hier, l'actu, c'était un multiplex de Ligue 1. Oh là là, un tir à côté de Paris dans un bar, on y va tout de suite. Oh là, un tir à Nouméa. Oh là là, un tir en Slovaquie. Que des emmerdes pendant toute la journée. Donc l'exécutif est sur les braises, notamment à cause de la situation en Nouvelle-Calédonie. Le gouvernement a appelé les différentes parties au dialogue. Et là, on sait que le dialogue, la concertation, tenir compte de l'opinion contraire, c'est la spécialité d'Emmanuel Macron et du gouvernement. Moi, je suis calédonien, j'entends que Macron veut dialoguer, je stocke du sucre dans ma baignoire. Hein. Ça veut dire que c'est pas résolu tout de suite. D'un autre côté, ils ont pas la bonne méthode en Nouvelle-Calédonie. Quand tu veux obtenir quelque chose du gouvernement, tu brûles pas des écoles et des gymnases. On sait que ça marche pas. Ce qui fonctionne avec Macron, on sait ce que c'est. Hein, vous savez non, je vous donne le truc, t'achètes un tracteur. Et tu répands lisier de porc à la mairie, du crottin de cheval chez le sous-préfet, de la bouse de vache à la préfecture, tu bloques un marché. Et là, Gabriel Attal se met en mode Karine Le Marchand. Il vient te voir directement dans ta grange pour te faire un massage de la voûte plantaire en te demandant ce qui te ferait plaisir. Alors, Roger, c'est quoi ton souci? Dis-moi tout. Et là, ça fonctionne.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Et c'est l'heure de rigoler.
Arnaud
de manche, c'est rentré dans ce studio.
La bonne barre de LOL du jour. J'espère que vous allez bien. Et si vous n'allez pas bien, dites-vous qu'au moins vous allez mieux que Gabriel Attal. Voilà. En janvier, il avait 34 ans et pas un cheveu blanc. Je l'ai vu hier parler de la Nouvelle-Calédonie. Waouh, 52 ans le pot. Tu sentais qu'il n'avait pas dormi depuis 3 jours. Dans sa tête, ça faisait... Assommé. Un zombie. Faut dire que la situation est explosive à Nouméa. Le dossier était déjà hautement inflammable à la base. J'avoue que j'ai pas trop compris pourquoi l'exécutif s'est rajouté ce bordel-là à gérer, alors qu'il en a déjà assez, hein, entre les agriculteurs, les soignants, les profs, les syndicats, les gens, tout le monde, nous tous, plus les JO. Macron, il a dû réunir ses conseillers en disant « Bon, les gars, soyez francs. Est-ce qu'il y a encore des gens qui me détestent pas en France ?» Les Calédoniens, je crois, ils sont loin. N'en dites pas plus. Et hop, il s'est lancé dans le défi. Et depuis, nous sommes en 2024 après Jésus-Christ. Toute la Gaule déteste Emmanuel Macron. Toute, non. Dans le Pacifique, un petit village d'irréductibles Calédoniens essayait de s'en foutre jusqu'à ce que Jupiter décide de leur tomber dessus. Emmanuel Macron, il va d'ailleurs réunir un nouveau conseil de défense aujourd'hui sur le sujet. Il a dû reporter sa visite à Flamanville. Il devait aller à Flamanville visiter le nouveau réacteur nucléaire EPR parce que ça avance là-bas. Le chargement de combustible a eu lieu cette semaine. C'est pour ça qu'on a eu les belles aurores boréales. C'est très joli, mais c'est radioactif. Hein. Le chantier de l'EPR a commencé en 2007. Il devait durer 5 ans et coûter 3,3 milliards. Finalement, ça aura pris 17 ans et 19 milliards. Et voilà. Ouais. Brigitte doit être déçue de ne pas visiter l'EPR. Hein. Il a 17 ans, le chantier, c'est l'âge qui l'intéresse. C'est bien pour elle. Il venait d'avoir 17 ans. Ça fait quand même un dépassement de 12 ans pour le chantier. Hein. Faut pas leur confier ta cuisine à ces gars-là. Ils viennent te voir. Bon, monsieur Le Chypre, ça y est, on a démarré la cuisine. Alors, vous inquiétez pas, hein, le plombier, il m'a dit d'ici 12-15 ans, il est dispo, le gars. Sinon, l'électricien, il dit le four à mini-pizza connecté, plus le micro-ondes, plus la plancha, plus la crêpe partie, plus le four, plus le mixeur, plus le thermomix, plus le Ninja Creamy Deluxe pour faire des glaces, plus... plus l'appareil à raclette, tout en même temps, les plombs, ils tiendront pas. Hein. Alors, le budget, on avait dit 3000, bah, on est à 300 000, hein, ça dépasse un peu. Et puis, en attendant, je vous ai mis des bougies chauffe-plat. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça, le génie français. On sera prêt pour les JO de 2024, mais dans 12 ans. Cocorico.
À Paris, Arnaud, un lécheur en série.
Et oui.
Un lécheur en série passe donc dans les boutiques et il provoque la crainte des commerçants et une saturation des appels à la police.
Oui, alors je vous ai vu tiquer sur le lancement parce que vous ne savez pas, mais il y a un gars qui rentre dans les boutiques à Paris et il lèche par terre.
Donc il y avait le frotteur et maintenant il y a le lécheur.
Oui, il y a le lécheur. Mais apparemment.
Il lèche le sol.
Il lèche le sol. Il a l'air normal et. Il lèche par terre les sols des boutiques. Donc il doit être immunisé contre toutes les maladies possibles. S'il se baigne cet été dans la Seine, bah lui, il ne sera pas malade. Mais ne soyez pas juge, il faut être inclusif. Il est peut-être juste LGBT+, c'est-à-dire lino, gravier, béton, tomette, plus carrelage et moquette. C'est son truc à lui. C'est une pub pour Monsieur Propre. Et bah, il se caresse les tétons devant, c'est très érotique.
Alors, il lèche la télé, du coup.
Il lèche la télé, il lèche... par tous les objets. J'imagine que la police a dû être appelée au moins une fois quand même. Ils ont dû arriver en disant « Police, posez cette langue à terre !» Enfin non, non. « Posez cette langue sur votre nez et reculez de 3 pas. Passez-lui les menottes. Alors mon bonhomme, tes papiers ? Nom ? Prénom ? Je m'appelle Stanislas Guérini. Oh, monsieur Guérini, on vous a déjà dit, c'est que les chaussures du président, ça. C'est que ça qu'on lèche. Ben oui, mais il est en déplacement. On va devoir vous déférer au parquet, je suis désolé. Je pourrais le lécher, le parquet ?
Oh non !
Non !
Ce jeudi sort le Petit Robert, Arnaud. Oui. Le dictionnaire a dévoilé les nouveaux mots qui vont faire leur entrée cette année.
Alors, il y a des noms propres, il y a des noms communs. Et est-ce que vous saurez deviner qui ou quoi est rentré dans le dictionnaire ? On va faire un jeu qui s'appelle C'est oui ou bien c'est non. Jingle.
C'est oui ou bien c'est non.
À gagner une après-midi de lèche-vitrine avec Stanislas Guérini, c'est un beau cadeau.
Alors,
c'est un beau cadeau.
C'est un très beau cadeau.
Est-ce rentré dans le
gagner.
Est-ce rentré dans le Petit Robert ? Oui ou non ? Je vous donne le mot et sa définition. Top. Rachida Dati, restauratrice spécialisée en kebab de chien.
C'est non.
Sapiosexuel.
C'est vrai.
C'est quoi ?
Sapiosexuel, ça veut dire être attiré sexuellement par l'intelligence de quelqu'un.
Ah, d'accord.
C'est un mot utilisé.
Le corps et l'esprit.
Voilà.
En fait, c'est un mot utilisé par les hommes qui te font croire qu'ils n'ont pas maté ton cul.
C'est le genre de truc qu'on met sans le savoir.
Voilà, exactement.
Oui.
Ah, Pauline.
Teubé sexuel, qui est attiré par les gens complètement teubés.
C'est non.
TikToker, comme la méningite s'attaque au cerveau des plus jeunes.
Effectivement, dans le dictionnaire.
Urbex, qui visite des endroits délabrés ou en ruine, comme le 19e arrondissement, c'est vrai. Castexisé, simplifié à la française.
Ça serait génial.
Il faut.
Surtourisme, contraire d'un dimanche après-midi au Havre en novembre.
C'est vrai.
C'est si foot, épreuve paralympique de foot pratiquée par des déficients visuels, comme par exemple le PSG face à Dortmund. Voilà, il l'a senti venir. Il l'a vu venir de loin parce qu'il n'est pas déficient visuel, notre charmant. Vocal. Au lieu d'envoyer un
arrêtez d'envoyer des vocaux.
Voilà, parce qu'au lieu d'envoyer un long SMS que
relou,
les gens n'envoient
pas.
Pas
des vocaux.
C'est relou un vocal, non, j'envoie pas de vocal. Non, je tape pas.
Avec
un doigt. On y va.
Écoféministe, quand Manu Le Chypre met une jupe avant sa chronique.
Oui, c'est tout à fait
bonjour,
ça.
Bonjour, bienvenue dans ma chronique écoféministe.
Et bah oui, c'est rentré. Et d'ailleurs, c'est un beau truc qu'on aimerait voir sur BFM Business. Pensez à nous, Manu. Soyez non binaire.
Aucun problème.
Mettez une jupe.
Et alors, aucun problème.
Super. Détends.
Demain, si vous voulez.
En kilt.
Avec un kit magnifique. Brioniste. J'en rêve.
Demain.
Arnaud Demanche est chaque matin à 7h20 et 8h20
dans Apolline Matin sur RMC.
Tout de suite, réécoutez C'est tous les jours de manche en podcast.
Sur toutes vos plateformes, sur rmc.fr et sur l'appli RMC.
RMC, pour réagir en direct, 3216, touche 1.
Touche 1.
RMC au 3216,
45 centimes la minute.
Ou par SMS au 73216,
75 centimes par envoi, plus prix du SMS.
Toute la semaine, dès 15h sur RMC.
Retrouvez l'équipe la plus déjantée de la radio avec Eric Dimeco, l'ancien fou.
Oui, voilà. Alors, il y a Dimeco, il y a Charvet, il y a Stephen, il y a Bartoli, il y a Higuain, il y a Pierrot. Venez vous marrer, parler de sport avec nous dans le Super Moscato Show. Voilà, ça c'est efficace et présent de la graine.
Mais Vincent,
il n'y a pas de mais.
Vincent.
Alors à tout à l'heure.
Vincent, t'as oublié l'heure.
Je vais pas faire tout ton travail non plus, feignasse.
Le Super Moscato Show, du lundi au vendredi, 15h-18h, sur RMC. RMC.
Les meilleurs moments de la journée, toutes les nuits sur RMC. Rediff.
RMC, 9h midi. Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Bonjour à tous et bienvenue sur RMC, RMC Story pour discuter, pour débattre. C'est l'heure des GG, c'est l'heure des grandes gueules. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Le 32-16 est à votre disposition pour prendre la parole. Bonjour Olivier.
Bonjour Alain, bonjour les grandes gueules, bonjour à tous.
Aujourd'hui dans les GG, l'éducateur de Saint-Denis, Étienne Liebig. Bonjour mon cher.
Hello.
Nous sommes avec l'ancien policier du Raid, Bruno Pomard. Bonjour Bruno.
Bonjour à tous, bonjour GG.
Et Barbara Lefebvre, professeure d'histoire-géographie, nous accompagne. Bonjour Barbara.
Bonjour à tous.
Parmi les sujets de discussion aujourd'hui que l'on va avoir dans les GG, dans les grandes gueules, est-ce qu'on doit faire louper, rater l'école à nos enfants pour pouvoir voyager moins cher? Je vais vous demander un moment de franchise aujourd'hui dans les grandes gueules. Là, on a eu le mois de mai avec les ponts, les viaducs, et de temps en temps, on se dit, bon, mais si je vais rater l'après-midi, ou si je vais rater le matin, ou si je vais rater toute la journée, c'est pas grave, une journée par-ci, par-là. Bah si, ça peut l'être. Donc venez en parler au 32-16 tout à l'heure avec nous à 10h20. On reviendra aussi sur ces chauffeurs de bus RATP qui avaient pas mal de temps libre. Des arrêts maladie aussi de complaisance et qui faisaient VTC ensuite. Est-ce que ce sont des cas isolés ou pas? Je pense à, par exemple dans la police ou dans d'autres secteurs de la fonction.
Dans la police.
Qu'est-ce que vous vouliez dire, monsieur Marchal?
Dans la police, ils feraient des ménages. Eh bien, même des journalistes, j'en connais qui font des ménages, moi.
Tiens, tu vois.
Bruno Pomard, il est taxi après, là.
Un peu de temps libre.
Un scooter, je
pense. Là encore, c'est un moment de franchise que je vous demande dans les GG, dans les grandes gueules, tout à l'heure à 10h. Premier sujet de discussion, ça va être la Nouvelle-Calédonie.
RMC, les grandes gueules.
Nouvelle-Calédonie avec l'armée déployée, 3 nuits d'émeute, 4 morts dont un gendarme et l'état d'urgence décrété. Voilà ce qu'en disait Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur.
Le calme n'est pas rétabli partout dans l'île, mais l'état d'urgence décrété par le président de la République nous permet d'assigner à résidence. Cette nuit, j'ai assigné à résidence 10 leaders que je ne confonds pas avec des indépendantistes politiques, mais qui sont des leaders mafieux, il n'y a pas d'autre mot.
Leaders mafieux?
Oui, des leaders mafieux. Le CCAT, qui est différent du FLNKS, ce parti politique, le CCAT.
C'est un groupuscule indépendantiste, hein, le CCAT.
C'est un groupuscule qui se dit indépendantiste et qui, en fait, commet des pillages, commet des meurtres, manifestement, commet de la violence. Grâce au travail de l'état d'urgence, nous allons rétablir l'ordre. Et puis là, des centaines de policiers et gendarmes arrivent à Nouméa. Mm-hmm. On passe de 1700 policiers et gendarmes, ce qui était déjà beaucoup, à 2700 policiers et gendarmes d'ici demain soir. Donc le calme va être établi.
Là, le calme va être établi en Nouvelle-Calédonie, là encore, à vous de nous appeler au 3216 pour nous raconter ce qui se passe là-bas, surtout si vous avez de la famille.
Le bilan est déjà terrible, hein. 4 morts, un gendarme de 22 ans a perdu la vie, il y a des centaines de blessés, il y a 64 policiers gendarmes blessés. Donc effectivement, visiblement, l'état d'urgence commence à porter ses fruits, puisque le bilan de cette troisième nuit d'émeute est un peu moins violente. On a aussi déployé l'armée pour sécuriser les ports, l'aéroport de la Nouvelle-Calédonie. On a arrêter, interdit TikTok. Ça, c'est intéressant. TikTok, en fait, c'est le réseau social chinois qui serait l'un des vecteurs de communication préférés entre les groupes qui commettent ces violences. Et d'ailleurs, on s'était aperçu ici même en métropole, lors des émeutes de l'été dernier, que TikTok avait également été utilisé par les émeutiers. Donc là, à un moment donné, il faudra quand même se poser la question sur ce réseau social chinois. Alors, c'est légal de fermer TikTok a priori parce que c'est dans le cadre de l'état d'urgence. Mais c'est forcément une façon.
Donc, c'est possible.
C'est possible, mais ponctuellement.
Ah, dommage.
On peut pas. L'état d'urgence, par définition, c'est un état d'urgence.
Non, mais si, parce que justement.
Techniquement, c'est possible.
Ce qui est intéressant, simplement, c'est qu'on voit bien qu'en Nouvelle-Calédonie, c'est loin, hein, mais là, on se replonge dans l'histoire et de la Nouvelle-Calédonie. Il y a une crise, effectivement, politique avec l'idée d'élargir le corps électoral qui ne plaît pas à une partie de la population, mais il y a aussi, visiblement, une crise économique avec le nickel qui rapporte moins, qui est concurrencé par l'Indonésie. Il y a une crise sociale aussi, ce qui fait que les émeutiers qu'on voit aussi dans les rues, les jeunes ressemblent quand même beaucoup aux émeutiers qu'on a nous ici en métropole. Et puis il y a aussi l'influence de l'étranger, c'est ce que dit Darmanin, on parle de l'Azerbaïdjan, de la Chine, ça fait beaucoup, il y a beaucoup de choses à régler sur place. Bon courage, monsieur Macron.
32-16 pour nous parler de la Nouvelle-Calédonie, Barbara Lefebvre.
Emmanuel Macron, d'ailleurs, qui ce matin préside un nouveau conseil de défense et qui sera en visioconférence avec des élus de l'île.
Ouais. Bon, en tout cas, relativement pour moi, une bonne nouvelle. Donc, je n'avais pas compris, je croyais qu'on ne pouvait rien faire contre les réseaux sociaux. Ah non, on ne peut rien faire. Ah non, on ne sait pas quoi faire. Techniquement, ce n'est pas possible. Oh, bah là, dis donc, pouf! En même pas 12 heures, clac, on leur a coupé le sifflet à TikTok. Moi, je trouve ça formidable. Alors, le reste du temps, on nous explique que c'est pas possible. Et puis tout d'un coup, il y a des moments, il y a des petites fenêtres comme ça, où tout d'un coup, quand la situation est suffisamment catastrophique, les choses deviennent possibles. Donc fini, TikTok, excusez-moi, mais il n'y a pas que TikTok. Je rejoins d'ailleurs Raphaël Quenard qui avait expliquer limpidement à quoi ça servait les réseaux sociaux, c'est-à-dire bon, je considère que c'est essentiellement, il y a peut-être 20% de choses intéressantes et 80% de boue et de gens qui derrière des pseudonymes se livrent à toutes sortes d'exactions et de propos diffamatoires, de calomnies, mais là carrément d'appels aux meurtres, de pillages, etc. Donc tout ça devrait être sérieusement régulé d'un point de vue technique par un État qui devrait être un petit peu plus fort, c'est-à-dire affirmer sa puissance et pas seulement en faisant des conseils de défense et en éteignant le feu avec des seaux, alors que ça fait des semaines et des semaines qu'on leur dit que c'est explosif la Nouvelle-Calédonie. Quand vous avez Jean-Marc Ayrault, qui est pas un foot de guerre, excusez-moi, Manuel Valls, Édouard Philippe, les trois qui vous disent, il y a un problème, attention, ça va péter, c'est pas possible de continuer comme ça. Mais non, on a un gouvernement aveugle et sourd et qui continue et qui n'écoute rien sur ce sujet comme sur tant d'autres. Moi, je vous dis, on nous avait dit, c'est moi ou le chaos. Ah ben, on a compris, oui, ça c'est sûr, c'est lui et le chaos.
Ben, Bruno. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça pas, il y a un manque d'anticipation évident. Hein. La stratégie qu'a mis en place Darmanin est intéressante, évidemment. Hein. L'armée pour assurer les points névralgiques que sont les ports, les aéroports, puisqu'il faut acheminer les hommes, comme c'est le cas actuellement. Ça, c'est une bonne chose. Les services de sécurité qui sont en place en nombre et pas assez jusqu'à présent, ça, c'est une bonne chose. La seule problématique, c'est que le haut commissaire, à mon avis, a peut-être mal apprécié et aurait dû anticiper avant les annonces concernant ces fameuses réformes.
Et pas assez de forces de l'ordre
sur de mettre en place voilà pour neutraliser.
C'est fait qu'on a vu des habitants se transformer en milice, en comité de défense pour défendre leurs biens.
C'est pour ça que dans le cadre de l'état d'urgence d'ailleurs les perquisitions servent à ça, c'est-à-dire
d'où l'ambiance de guerre civile sur place.
Bienvenue dans la France de demain.
Petit territoire, énormément d'armes, donc on se pose des questions. Là, le changement, et puis moi je l'ai connu en 88 puisqu'avec le RAID j'étais là-bas à protéger Djibaou et Jacques Lafleur à chacun à un moment donné.
Qui étaient les deux leaders, faut rappeler.
Les deux leaders, tout à fait. Tout à fait.
Le leader Kainak et le leader Keldosh.
Tout à fait. Deux personnages intéressants et admirables. Même,
parce que Djibaou est un intellectuel qui n'a rien à voir avec les demeurés qui aujourd'hui pillent les magasins.
On l'a fait passer pour un sauvage.
Oui, tu as raison. Mais la seule variante,
pas vraiment Djibaou, non.
La seule variante, c'est qu'on a cette jeunesse désœuvrée dont se servent le CCAT.
Oui.
Et ça, c'est un véritable problème parce qu'on l'a vu aux émeutes en métropole. Oui, mais là-bas, ça a pris une ampleur. C'est pour ça que ça a débordé de cette façon parce qu'on a laissé faire.
On tire à balles réelles contre la police.
On a tué un gendarme quand même.
On a tué un gendarme.
Saluer nos amis gendarmes dans ce moment difficile.
22 ans.
Voilà, donc il y a vraiment un travail qui aurait pu être anticipé avant, mais je pense que le haut commissaire devra sûrement rendre des comptes.
Étienne.
Écoute. Moi, je pense que c'est une situation de néocolonialisme qui devait, on le savait que ça allait arriver. C'est déjà arrivé, ça a été réglé. Je rappelle quand même que dans ce genre de situation où il y a une très grande inégalité sociale sur une population, où effectivement il y a des gens qui sont des natives, qui ne se sentent absolument pas reconnus à la fois socialement, à la fois économiquement, où finalement, donc c'est prouvé, on sait que c'est à partir des années 1850 qu'il y a effectivement une population on met une population carcérale qui ensuite va être libérée.
Des anciens bagnards,
etc. Et ensuite, on envoie des gens parce que effectivement il y a le nickel, parce que pour d'autres raisons aussi de géopolitique. Et finalement, les gens qui se sentent sur leur terre parce que ils y sont depuis 2500 ou 3000 ans, ils n'ont plus,
ils sont moins en moins nombreux.
Ils deviennent. Ouais. Ah ben ils sont 41%. Ils deviennent de moins en moins reconnus. Alors ils sont peut-être beaucoup, mais finalement ils n'ont pas les moyens de production. Ils n'ont pas les moyens politiques.
Alors
continue.
Le nickel. Le nickel, il le cogère avec les entreprises. J'ai lu,
et vous pouvez tous le retrouver, la situation économique inégalitaire dans cette île. D'ailleurs, il y a des choses qui ont été faites, heureusement.
Je continue.
On se retrouve dans une situation où des gens sont en colère, et là où il faudrait intervenir, et là je vous rejoins tous les deux, là il aurait fallu intervenir par une négociation très fine avec des gens qui connaissent l'île et qui connaissent les problèmes et qui sont respectés par les deux groupes. On intervient avec des gros sabots nuls à la ponce, alors qu'il aurait fallu intervenir à Bernard Ponce. C'est lui, la grotte d'Ouvert. Oui, mais ça s'appelle la grotte d'Ouvert. Oui. C'est lui qui a donné l'ordre. Relisez, vous verrez qu'il a même pris sur lui de donner l'ordre. Il a dit, il n'avait pas le commandement. Donc,
parce qu'à l'époque, on était en plus en campagne électorale.
Voilà, exactement. C'est une affaire politique. Mais donc il intervient à la ponce, alors qu'il aurait fallu intervenir à la rocard, à la limite.
Oui, mais rocard, c'était après.
Oui, mais en mettant les gens et en discutant, parce qu'on sait que ça va être explosif. Et contrairement à ce que vous dites, là, je suis pas d'accord avec vous. Si vous croyez uniquement que c'est par les moyens de répression, l'augmentation des moyens de répression, que vous allez rétablir en fond des gens sans égard.
Je veux bien que tu aimes pas les forces de l'ordre, mon cher.
C'est pas la question des forces de l'ordre. Les pauvres, ils sont utilisés.
Mais pour établir l'ordre.
Mais oui.
Ils vont rétablir l'ordre
et quand ils seront partis.
Non mais Étienne,
le problème est de fond. Vous êtes toujours dans un problème de fond.
Pardon Étienne, excuse-moi, ça serait si tu avais la solution, puisque toi-même tu as dit que c'était complexe. Mais dans un premier, pour discuter, il faut que l'ordre soit rétabli. Ça ne fonctionne pas.
Il aurait fallu discuter avant.
La discussion dans le chaos, ça ne fonctionne pas.
On est bien d'accord que la méthode du gouvernement sur cette question de cette réforme, qui au demeurant est tout à fait légitime. Je suis désolée. C'est normal que 25 000 personnes, 25 000 électeurs aient le droit de vote. Mais moi, j'ai une question pour toi. J'ai une question pour toi. Donc, pour toi, la dette coloniale, ça justifie de brûler des maisons, de tirer à balles réelles, de piller des magasins. Ça s'appelle la dette coloniale, donc, pour toi.
Toi, tu vois, tu dis que ça justifie. Moi, je ne dis pas ça justifie. Rien ne justifie la violence.
Ah, d'accord.
Je dis juste que quand on est un peuple, qu'on se sent opprimé, et on peut en prendre 12 000, c'est partout. C'est partout, les peuples natifs, ça s'est passé il y a très peu de temps en Nouvelle-Zélande, ça se passe partout, c'est-à-dire qu'à partir du moment où un peuple se sent légitimement chez lui et se sent réprimé par une colonisation qui parfois est juste...
Mais... On est en 2024, arrêtez avec...
C'est marrant parce que vous n'écoutez pas ce que vous disent simplement les habitants. On va passer par le 32-16.
Que c'est paradoxal. La gauche se bat pour le droit de vote des étrangers sur le territoire hexagonal et en revanche ne voudrait pas que des gens qui sont installés depuis 25 ans en Nouvelle-Calédonie votent. Oui. J'y vois quand même une certaine contradiction.
Non, tu crois ?
Attends, on va passer par le 32-16. Écoutez Malika. Malika, elle est en Haute-Garonne. Elle a sa famille qui vit en Nouvelle-Calédonie. Bonjour Malika.
Bonjour à tous les grandes gueules.
Alors, quelles sont les nouvelles que vous avez, vous, de...
Ben là, en direct live, je suis encore avec Messenger. Donc, du coup, la situation est très, très critique sur place. C'est pas du tout réellement ce qu'on entend depuis deux jours sur vos plateaux. Alors, peut-être pas vous, mais les autres. Et on est tout état de cause. Nous, les Blancs, entre guillemets, je mets bien entre guillemets, on est obligés de se défendre nous-mêmes et on a bientôt plus de nourriture, plus rien. Donc, je voudrais bien savoir où sont les gens pour nous aider, parce que pour nous, à l'heure actuelle, on se relaie tous les 4 heures, enfin ma famille, mes frères, mes amis, pour pouvoir avoir un minimum de sécurité sur place. Avec des armes au poing, des cocktails Molotov, il n'y a pas de cailloux, on a réellement des armes pour se défendre. Hein.
Vous avez des armes avec des balles ou juste des barres de fer ou des balles de baseball?
Il y a des carabines, des fusils, des armes.
Vous vous rendez compte que vous-même vous vous mettez en danger, vous pouvez être susceptible de tuer quelqu'un et ensuite d'être arrêté et tout ça, Malika.
Bah écoutez, c'est pas grave, c'est de la légitime défense. Ben non, c'est pas grave. Quand on attend l'armée, les militaires depuis des semaines, ça fait des mois et des mois et des mois et des mois qu'on crie à l'aide et qu'on se dit que vraiment il va y avoir des choses prises en compte et en place et que rien n'est fait et que maintenant que c'est le bordel, tout le monde crie à l'aide. Non.
Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là, Malika, alors ?
On en est arrivé là parce que moi, je les aime. Mon peuple calédonien, je l'aime d'amour. On est pour un vivre ensemble. On est pour partager quelque chose de fort, quelque chose de légitime. Vraiment, de toute manière, maintenant, il va falloir quand même créer un pays commun.
Mais Malika, on a l'impression que les indépendantistes eux-mêmes, enfin les leaders indépendantistes, sont dépassés par la situation et que, comme le dit Darmanin, on a des bandes qui sont plus là pour des histoires de mafia, de pillage et autres que de choix politiques en fait.
Oui, mais après, vous savez, répondre par la violence, ça a toujours été une facilité, hein, de toute façon. Hein, on l'a vu ici en France plein de fois. On a bien compris que de toute façon, les casseurs et les pilleurs, ça a toujours été un grand parti pris de la France. Hein. Ça, c'est très français de tout casser pour se faire entendre, de toute manière.
Votre famille, bah,
vous allez rentrer là, en Nouvelle-Calédonie ?
Ah non, mais là, tout est fermé. Là, les ports maritimes, l'aéroport, tout est fermé. Quand bien même, qui voudrait s'installer maintenant ? Qui ? Qui voudrait repartir, ne serait-ce que pour aller voir sa... pour reconstruire le pays. Il y a des milliards qui vont être à débourser pour tout remettre à flot. Les gens qui ont investi toute une vie, même les Blancs qui sont nés là-bas ou les Kanaks qui sont nés là-bas. Enfin, à un moment donné, on peut pas, quoi. On peut pas.
Je voudrais préciser une chose, Malika. Je pense que vous me contredirez pas. Mais les Caldoches, vous parlez des Blancs. Mais les Caldoches, les 59% de Caldoches.
Non, 24%.
C'est pas des, entre guillemets, c'est pas des Blancs. D'ailleurs, vous avez raison. Au début, vous avez dit des Blancs. Non, c'est des Métisses. Les Caldoches, c'est des Polynésiens, c'est des métropolitains qui sont issus des colonies pénitentiaires. Et dans ces colonies pénitentiaires, vous aviez les communards, mais vous aviez aussi les Algériens qui s'étaient battus contre la colonisation française, les premiers pas de la colonisation. Donc, vous avez aussi des Asiatiques. Donc, les Kanaks aussi, vous avez eu des métissages. Donc, justement, c'est ça aussi le problème, c'est que cette racialisation du conflit entre des Kanaks soi-disant autochtones qui seraient... excusez-moi de le mettre entre guillemets, parce que quand on les entend eux-mêmes s'exprimer, excusez-moi, mais c'est du racialisme, comme s'ils étaient purs racialement ou je ne sais quoi dans leur mentalité. Et les autres, c'est entre guillemets les Blancs. C'est n'importe quoi, parce que la Nouvelle-Calédonie, c'est justement une population de métissage. Donc c'est quand même lamentable qu'aujourd'hui,
c'est 21%, c'est pas 40%.
Y compris des gens comme Mélenchon viennent nous parler de la colonisation, les Noirs contre les Blancs, etc. Il connaît rien à la Nouvelle-Calédonie. Donc encore une fois, que ce soit la Nouvelle-Calédonie ou que ce soit les Antilles, la Réunion, la Guyane, c'est justement des terres qui ont effectivement une histoire de colonisation, qui même pour les Antilles, une histoire d'esclavage, et c'est aussi une terre de métissage. Et ce serait peut-être bien de remettre, au lieu d'être polarisé les Blancs, les Noirs et les choses, je sais pas quoi, c'est d'essayer de voir aussi ce qui fait l'identité commune de ces territoires.
Et le déni, à mon avis, le déni que tu exprimes tout à fait clairement, le déni, c'est pas une invention. Je veux dire, s'il y a des gens qui le ressentent, alors peut-être qu'ils ont tort, alors tu es en train de me démontrer qu'historiquement, c'est pas vrai qu'ils sont d'origine.
C'est pas vrai que
les
Blancs,
c'est pas du tout, les pauvres, ils sont là, c'est même pas eux qu'on a d'ailleurs les gens d'origine.
Laisse-moi
terminer. Les Caldoches, contrairement à ce que tu dis, c'est-à-dire des gens qui sont issus des colonies pénitentiaires, ils représentent 21% de la population. Le reste, c'est des gens qui sont arrivés après, qui n'ont rien à voir ni avec les Kanaks. Ni avec les Kanaks, ni avec les Caldoches, qui souvent ne sont pas mélangés d'ailleurs pour ce qui concerne tous les coloniaux qui sont venus après, et c'est normal, ils ne sont pas mélangés en particulier, donc c'est pas tout à fait vrai ce que tu dis, il n'y a pas 50% de Caldoches et 50% de Kanaks.
C'est
pas du tout comme ça que ça fonctionne.
C'est une population mélangée en Nouvelle Calédonie.
Merci Malika de votre témoignage.
Pas intégralement, mais même, c'est pas ça le problème.
Merci d'avoir été avec nous. Merci Malika. Dans un instant, on sera avec Christopher, qui a sa fille, qui travaille à l'hôpital de Nouméa. Lui aussi voudra témoigner dans les GG, dans les Grandes Gueules. À tout de suite.
RMC, jusqu'à midi.
Les Grandes Gueules.
Bonjour, c'est Apolline.
RMC, Apolline Matin.
Vous voulez une matinale où on vous parle de vos préoccupations, où on vous parle de pouvoir d'achat, de sécurité, d'économie. Vous voulez qu'on vous accompagne, vous voulez qu'on vous écoute, vous voulez des réponses sans concession à toutes les questions que vous vous posez, et puis vous voulez vous marrer. Ne cherchez plus. On est là avec toute l'équipe, avec Charles, avec Manu, avec Nicolas, avec Amélie, avec Arnaud, et avec vous au 32-16. Alors à tout à l'heure, 6h30, 9h pour Apolline Matin.
RMC Escrime. Du 17 au 19 mai, c'est le Challenge Monal. La Coupe du Monde d'épée hommes accueille les stars mondiales de l'escrime à Saint-Maur-des-Fossés. Encouragez le champion olympique Romain Canon et ses partenaires de l'équipe de France pour la dernière épreuve sélective avant les Jeux Olympiques. Info et résa sur ffescrime.fr. Le Challenge Monal. Du 17 au 19 mai avec RMC.
Si un jour vous ne captez pas RMC, pas d'inquiétude.
RMC est aussi en direct sur rmc.fr et sur l'appli RMC.
RMC, Roten sans flamme.
Salut, c'est Jérôme Roten. Cette semaine, dans Roten sans flamme, on fait le grand jugement de la saison du Paris Saint-Germain. Et croyez-moi, ils vont tous y passer. Ne ratez surtout pas ça, ce sera tous les soirs à 18h30 sur RMC. Et ce soir, on fait le procès de Gigio Donnarumma.
Pas le temps d'écouter la radio aujourd'hui ?
Sur RMC.
Sur RMC. Vous avez toute la nuit.
Rediff. RMC.
9h midi.
Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Ce sont vos témoignages que l'on écoute comme Malika il y a un instant à propos de la Nouvelle-Calédonie, de la situation qui a dégénéré, on espère le retour au calme. Ce sont des affrontements, un climat insurrectionnel, un climat de guerre civile, avec en fait ce qui serait le point de départ, c'est la révision de la loi électorale qui permettrait à ceux qui sont installés, alors ce serait au-delà des 10 ans, hein, de voter, ça remettrait dans le suffrage universel.
Ça arrivait récemment, quoi.
Oui, mais ça remettrait 20 000 personnes.
25 000 électeurs.
Voilà, 20 000, 25 000 électeurs. Et il y a une crainte du parti, pas de la population native, comme oui, tu dis, sûr. Étienne, de dire bah, nous, on va disparaître, on bien ne sûr. Pèsera plus aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est vraiment ça qui est le fond de la révolte, de la rébellion, des émeutes? Après, il y a une partie, c'est ce que dit le ministre de l'Intérieur, de la jeunesse, des émeutiers, qui est instrumentalisé par le CCAT, peut-être déstabilisé, armé par des puissances étrangères.
Des gangs, des vrais gangs d'ailleurs.
Il y a des vrais gangs aussi. On parle aussi d'une jeunesse qui serait sous stupéfiant.
Je sais,
à vérifier.
Comme d'habitude,
ou pas,
on nous raconte toujours le même truc. Hein.
Bah, on nous raconte peut-être un truc qui s'appelle le réel.
Toujours la jeunesse sous stupéfiant, toujours les bandits. Oui, enfin, quand il y a des révoltes populaires, aux États-Unis, en Allemagne, partout, il y a toujours.
C'est une révolte populaire.
Pour moi, c'est
dans les banlieues, c'est une révolte populaire. Quand tu brûles des écoles, c'est une révolte populaire.
La majorité s'opposait.
Faites l'émission tout seul.
Vous n'êtes pas d'accord avec Étienne, mais laissez-le quand même parler.
Oui, mais il soutient les indépendantistes, peut-être, mais franchement, la majorité de la population.
Comment va arrêter Étienne et Bigandi?
Tu peux fabriquer une majorité. À partir du moment où tu fais venir sans arrêt des nouveaux coloniaux, tu changes le niveau.
C'est ça. Allez,
je redis les chiffres.
C'est fini tout ça.
41% de Kanak, 29% de Caldoche, de gens qu'on peut considérer comme d'origine, puisqu'ils étaient là en 1850 ou 1900, donc ça fait effectivement 120 ans qu'ils sont là. Et pour le reste de la population, justement, les gens récemment arrivés, c'est des coloniaux qui sont arrivés après et qu'on envoie là-bas.
Des coloniaux, c'est des gens qui vont vivre en Nouvelle-Calédonie,
qui ne se perçoivent pas
comme des
coloniaux. À partir du moment où c'était une colonie, c'était maintenant, c'est plus une colonie.
C'est une colonie, c'est une communauté sui generis. C'est même pas un territoire d'outre-mer.
Mais donc,
je vais te dire.
Mais avec trois référendums qui ont eu lieu, faut pas.
Le problème, c'est que tu calques un discours effectivement anticolonial, un peu classique, sur une situation qui est quand même beaucoup plus complexe que ça. C'est pas l'Algérie, la Nouvelle-Calédonie.
Bah regardons la complexité. Alors, au lieu de guerrier avec nos gros sabots.
Dans ce cas-là, il faut pas dire que les émeutiers qui pillent et qui brûlent les maisons sont des révolutionnaires.
Mais je dis pas que c'est des révolutionnaires.
C'est une révolte populaire.
Bah oui, c'est une révolte populaire.
Quand tu casses, c'est
des émeutes de voyous.
Oui, mais vous arrêtez là-dessus alors que le fond est tellement plus grave que ça. Il va y avoir des choses.
Non, mais pour ceux qui vivent, c'est plus grave.
Oui, pour l'instant, c'est trois canaques qui sont morts avec le gendarme.
Le FLNKS, il veut que ça s'arrête.
Le gendarme et trois canaques.
Les anciens.
À mon avis, ceux qui vont mourir, c'est des canaques.
Moi, je vais te dire.
S'ils s'en prennent aux forces de l'ordre, oui, ils prennent un risque pour leur vie.
Et pas que aux forces de l'ordre.
Les indépendantistes.
Étienne est à fond avec la théorie des LFI.
Le haut commissaire a parlé lui-même de situation coloniale. J'ai la citation.
C'est le
porte-parole
de
ses filles. Arrête avec ça.
Mon ami.
Le FLNKS demande l'arrêt des violences. Ils sont
Il faut arrêter les violences, on est tous d'accord.
Donc ce sont des émeutiers qui sont des voyous, des racailles, qui n'ont rien à voir avec les politiques indépendantistes du FLNKS et de gens qui sont prêts à discuter, de gens qui sont prêts à s'asseoir autour de la table. Et je suis d'accord avec toi, il était nécessaire de s'asseoir autour de la table sur cette réforme qui a été encore une fois menée n'importe comment par ce gouvernement. C'était pas à Darmanin de s'en occuper, c'était à Gabriel Attal, parce que ça a toujours été comme ça en Nouvelle-Calédonie. Oui, il n'était pas là, et toujours à droite à gauche, qu'est-ce que je te dise. Mais là, la Nouvelle-Calédonie, il fallait s'en occuper. Non, mais alors ça devait être le précédent.
Il était à l'école encore.
Mais ça devait être Madame Borne.
Mais je suis d'accord avec toi parce que.
On ne convient pas nous dire que c'est des indépendantistes qui se révoltent. C'est des voyous.
Ce qui est intéressant, si on fait un peu d'histoire, c'est qu'effectivement, à l'époque, François Mitterrand
confie à son premier ministre Michel Rocard le dossier. Michel Rocard envoie sur l'île une équipe quand même assez surprenante, puisqu'il y a un évêque, donc ça c'était pour gagner la confiance de Tchibaou qui était un ancien prêtre, un pasteur, parce que Jacques Lafleur, le leader des Caldoches, était protestant, un préfet de droite et un préfet de gauche.
C'est Pisani, je crois,
et
là-bas,
un franc-maçon. Et c'est Mitterrand qui a dit à Rocard, il faut en plus mettre un franc-maçon. Et tous ces gens-là ont réussi quasiment en une nuit à mettre tout le monde d'accord, alors que la situation est encore pire que celle d'aujourd'hui.
On va écouter Christophe.
C'est sûr que la méthode Rocard est loin de la méthode
Darmanin.
Ah bah ça.
Bonjour Christopher.
Bonjour.
Bonjour. Quelles sont les nouvelles que vous avez de là-bas? Alors, parce que votre fille est à l'hôpital de Nouméa, je crois.
Exactement. Ma fille travaille à l'hôpital de Nouméa comme infirmière. Donc, mardi, vu le début des émeutes, je lui ai conseillé de demander à prendre son poste parce qu'elle devait commencer à travailler que mercredi. Je lui ai dit, ma puce, tu seras bien plus en sécurité à l'hôpital qu'à rester dans ton appartement. Effectivement, beaucoup de ses collègues n'ayant pas pu venir et se déplacer, elle a même pas eu le temps d'appeler sa cadre de santé et qu'elle était déjà convoquée à l'hôpital. Et les 10 minutes de chemin se sont faites avec le risque de caillassage à chaque rond-point. Il faut savoir que là, je souhaitais qu'elle intervienne. C'était la demande de la personne que j'ai eue au téléphone. Je l'avais eue ce matin. Elle m'a dit, papa, c'est pas possible. On passe notre vie à réparer, à suturer, à faire tout ce qu'on peut. Là où elle découvre quelque chose de terrible avec la naïveté de ses 25 ans, c'est qu'elle y est partie il y a 2 ans dans un cadre d'aller voir un peu ce qui se passe outre-mer et de voyager. Et elle se rend compte d'un seul coup de la brutalité de l'être humain. C'est-à-dire qu'elle ne reconnaît même pas les patients. Là, ils sont partisans. Elle se fait engueuler en permanence par les Kanaks sur lesquels elle intervient, qui la traitent de tous les noms. Je veux dire, là, les vieux relents colonialistes, comme disait Barbara, sont en train de ressortir complètement. Et je la rejoins. L'erreur principale de ce gouvernement, une fois de plus, c'est de décider des choses dans un entre-soi parisianiste sans aller débattre à l'Assemblée dans ce territoire, parce que c'est pas un dom-tom, c'est un pays d'outre-mer, pardon, c'est pas un territoire, c'est un pays, donc c'est quand même un endroit qui a son propre jugement, sa propre assemblée pour beaucoup de choses, même s'ils sont toujours rattachés à notre vieille métropole. Et le truc qui est dingue,
l'erreur, c'est d'avoir mis un ultimatum, d'avoir dit Macron a dit je vous donne 3 semaines, en 3 semaines
le gouvernement fait ça à Paris, et ma fille, depuis une semaine, alors n'avait pas peur, parce que heureusement, la naïveté de ses 25 ans ne lui faisait pas avoir peur, mais moi, je commençais à me dire, ça va tourner vinaigre, c'est obligatoire.
Et tout le monde l'a dit.
Christopher, je vous rejoins aussi dans un autre point, c'est que ici à Paris et en Nouvelle-Calédonie, le gouvernement s'appuie beaucoup aussi sur des personnalités qui sont très marquées, que sont Madame Baquès et Monsieur Metzdorf.
Ils sont peut-être trop engagés.
Ils sont trop engagés du côté des Caldoches, et ce serait quand même aussi un petit peu logique de faire entendre et de faire s'exprimer notamment les modérés du FLNKS et des gens articulés de l'autre côté. Or, on n'entend que Madame Baquès et Monsieur Metzdorf qui ne racontent qu'une version des choses. Alors, et ça, c'est la faute du gouvernement.
Un point très précis quand même à apporter, parce que j'y suis allé, moi, il y a 10 ans pour déplacement professionnel sur place. La chose qui a évolué, c'est que vous prenez une infirmière comme ma fille qui a eu la chance d'être formée dans un service spécialisé en France de maxillofacial au CHU d'Amiens. Aujourd'hui, ils ont besoin de ces compétences. Mais là où on a déjà beaucoup œuvré pour la population locale, c'est qu'elle n'est pas prioritaire. Donc ils ont besoin d'elle, mais elle n'est que sous CDD de 3 mois renouvelables depuis 2 ans. Donc on essaye d'intégrer par un institut de formation sur place la population locale, mais qui est très très dure à intégrer dans une vie qui jusqu'alors ne leur satisfait pas.
Bien sûr. Voilà. Christopher, je vous interromps simplement, restez avec nous hein, Christopher, mais parce qu'on a un autre coup de fil au 32-16 justement d'Emma, qui a ses parents qui vivent à Nouméa. Bonjour Emma.
Bonjour.
Voilà,
bonjour
et vous aussi, vous avez entendu Christopher évoquer le quotidien de sa fille. Quelles sont, vous, les nouvelles que vous avez aussi de votre côté, alors, Emma?
Moi, je suis en lien, du coup, avec mes parents qui, eux, sont entièrement confinés parce que, de par leur emploi, ils ne peuvent pas tout à fermer. Hein. De toute façon, ils travaillent dans la formation, donc les deux organismes sont entièrement fermés depuis lundi soir. Donc c'est vrai que la situation est quand même très très particulière. Hein. Eux ils sont très 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 choqués. Ça fait 5 ans sur place. Après voilà, comme le disait Christopher et comme vous l'avez bien expliqué aussi tout à l'heure, malheureusement la situation, on savait que ça allait arriver à un point. Mais
le problème, c'est qu'on est...
voilà. C'est quand même très compliqué, toujours.
Emma, est-ce que pour vos parents ou autour de vos parents, on s'est constitué en comité de défense ou en milice, Emma, ou pas?
Tout à fait, tout à fait. Alors, mes parents, ils se sont organisés avec leurs voisins. Il y a une très, très grande solidarité. Hein. Ça, c'est vrai que, par contre, c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant aussi. Eux, ils se sont organisés depuis deux nuits maintenant. Là, ils vont attaquer leur troisième nuit ce soir.
Avec des voisins, armes du
coup, non, eux, non, ils ne sont pas armés. D'accord. Ils sont dans un groupe où il n'y a pas d'armes, du coup. Ils se sont organisés. Ils ont fait des barrages avec les moyens du bord. Ils sont allés chercher des échafaudages, des palettes, ce genre de choses.
Ils savent à qui ils ont affaire, qui est en face d'eux. Ou pas,
alors pour le moment ils ont eu la chance, le quartier est quand même plutôt calme puisqu'ils sont sur les hauteurs de Nouméa, donc ils n'ont pas eu d'affrontement direct pour le moment à gérer, et j'espère que ça continuera ainsi, surtout avec la déclaration de l'état d'urgence, hein. mais après oui, ils sont
mais comment ils font pour pour se nourrir, parce que les commerces alimentaires ont été détruits, pillés. Il va y avoir aussi un problème économique parce qu'à un moment donné il va falloir tout reconstruire, la facture va être importante, et qui va payer? C'est l'État.
L'État, c'est pas l'État qui paye, c'est nous, les contribuables.
C'est nos impôts, voilà.
C'est les contribuables, donc l'État, c'est sûr. Nous, hein. Mais après, voilà, là, pour le moment, ils ont fait des petites courses. Alors après, eux, ils sont deux, c'est vrai que, voilà, ils sont deux, ils ont d'adultes, donc ils n'ont pas d'enfants.
Ils avaient un
pas
peu de réserve.
Voilà, ils n'ont pas de problème de santé, ils n'ont pas toute cette nécessité-là, parce que voilà, les gens qui sont aujourd'hui, qui sont diabète, qui ont des dialyses, qui ont plein de choses, ça va être très compliqué. Mais c'est vrai que là, pour le moment, c'est pas trop l'inquiétude principale. Là, c'est plutôt la sécurité. Aujourd'hui, c'est vraiment de se ressentir en sécurité chez soi. Et de réouvrir le dialogue, parce qu'aujourd'hui, voilà, et eux, c'est surtout l'objectif économique. Ils se disent, mais est-ce qu'on va pouvoir.
Ça fait longtemps qu'ils sont là-bas, vos parents?
Ils sont installés il y a 5 ans. Ils sont installés il y a 5 ans, et ça fait des années qu'ils connaissent.
Pour des raisons professionnelles?
Pour des raisons professionnelles, c'était un choix. Ma maman avait déjà travaillé, elle avait fait déjà plusieurs missions sur place.
Dans quel secteur d'activité?
Elle est dans la formation professionnelle.
D'accord.
Donc elle accompagne, voilà, et mon beau-père aussi, donc ils accompagnent, ils travaillent au quotidien avec plein de gens, avec des océaniens, des Kanaks, c'est très mélangé aussi, et tous les collègues, ils ont des collègues du coup qui sont de tous les horizons aussi, ils sont très 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 touchés, quoi. Ça a été très dur pour eux aussi, qui vivent sur place, qui sont nés sur place et qui vivent là depuis des années, quoi.
Donc, merci Christopher aussi. Et merci Emma de vos témoignages via vos familles,
merci
qui sont sur place.
Il faut quand même savoir une chose, c'est qu'à aujourd'hui, les magasins font du free, hein, c'est du libre service, c'est-à-dire que Adélaïde me dit qu'aujourd'hui, pour ne pas être brûlé, pour ne pas être détruit, le magasin dit « servez-vous ». Mais une chose qui est très importante à savoir, c'est que je n'avais jamais vu un pays comme ça, j'ai 52 ans. Je ne voudrais pas faire un parallèle douloureux avec de l'histoire, mais ça ressemble à l'Afrique du Sud, en fait. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que trois populations vivent l'une à côté de l'autre.
C'est ça.
Une partie de la Kanaky refuse notre vie occidentale, hein, reste vraiment sur les rites de la tribu. Une partie, ben forcément, les blancs natifs sont les possesseurs de tout, quelque part. Et vous avez ces espèces de conquistadors, comme ma fille peut faire partie, par exemple, qui vont, pendant un temps donné, pour soit gagner un petit peu plus d'argent que sur la métropole, soit se rapprocher du Pacifique pour voyager sur l'Australie, la Nouvelle-Zélande.
Et en tout, ça fait 270 000 habitants, hein, ça ne fait pas 10 millions. Hein.
Et malheureusement, une population qui n'est que sur la presqu'île de Nouméa, pour population qui est totalement occidentalisée, très concentrée. Et moi, j'ai vu des choses que je ne pensais jamais voir de mon époque. Dans les stations-service, par exemple, vous n'avez que des Kanaks qui viennent mettre le pistolet dans votre réservoir et qui vous disent à peine bonjour, en fait. Il y a vraiment une difficulté de pluralisme, comme on peut le connaître au niveau sociétal, en métropole, parce qu'il y a une volonté...
Donc un grand sentiment d'inégalité. Un grand sentiment d'inégalité.
Mais qui est logique.
Ce qu'ils viennent coloniser, comme tu dis, c'est la fille de ce monsieur qui amène des compétences.
Mais je ne dis pas le contraire, mais bien sûr. C'est souvent des gens extraordinaires. Mais ça n'a rien à voir. Tu vas aussi pour cultiver, tu vas pour tout.
Merci Christopher de votre témoignage. Merci encore à Emma.
C'est pas négatif, il a été utilisé par le haut commissaire, le mot colonial.
On a posé la question, est-ce que l'État, est-ce qu'il a bien géré ce qui est dépassé? On va regarder ce que vous en pensez. Ça a été la question qu'on a posée sur les réseaux sociaux. L'État est-il complètement dépassé? La Banque Nouvelle-Calédonie, c'est un oui très majoritaire à 93,5%.
C'était que sur la Nouvelle-Calédonie.
Dans un instant, on s'en fout pas. Et à 10h, on parlera des chauffeurs de la RATP qui,
de n'importe quoi,
sur leur temps libre, sont des chauffeurs VTC. Allez, à tout de suite.
RMC, jusqu'à midi. Les grandes gueules. Tous les matins, réveillez-vous avec RMC.
À 4h30, votre premier journal. 5h, 6h30, Charles Matin.
6h30, 9h, Apolline Matin et le face-à-face à 8h30 avec un invité qui fait l'actualité. RMC, le matin.
Le réflexe info.
Ce week-end, à l'Hippodrome d'Auteuil, c'est le Grand Steeplechase de Paris avec RMC. Assistez à la plus spectaculaire des courses d'obstacles de l'année. Prenez vite vos places sur francegallo-live.com. Le Grand Steeplechase de Paris, ce week-end avec RMC. À chaque obstacle, c'est votre cœur qui bondira.
RMC.fr et appli RMC.
RMC en direct, partout, tout le temps. Trop pressé aujourd'hui ?
Sur RMC, vous avez toute la nuit.
Rediff.
RMC.
9h midi.
Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Oui, j'adore ça. Les GG, les grandes gueules, c'est sur RMC, RMC Story. Venez débattre, venez discuter, venez témoigner avec les grandes gueules en toute franchise, en toute liberté. Aujourd'hui dans les GG, nous sommes avec Barbara Lefebvre, professeur d'histoire-géographie. Nous sommes avec Étienne Lébig. Et éducateur en Seine-Saint-Denis, Bruno Pomar, l'ancien instructeur du RAID. C'est l'heure du On s'en fout, on s'en fout pas.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout.
Je peux pas te dire à quel point je m'en fous.
Pardonnez-moi, mais je m'en fous.
Ou on s'en fout pas.
Bonjour Anaïs Sainz.
Bonjour les GG, bonjour à tous. Le chiffre du jour d'abord, 200 000, c'est le nombre de locataires HLM qui gagnent trop pour prétendre à un logement social des locataires dont les revenus dépassent donc le plafond de ressources maximum. 200 000, Barbara, est-ce qu'on s'en fout ou pas?
Non, on s'en fout pas.
Étienne?
Non, on s'en fout pas.
Bruno?
Chiffre
dévoilé hier par le ministre du Logement, Guillaume Kasbarian, devant la commission des affaires économiques au Sénat. 200 000 foyers sur 5,3 millions de logements sociaux en France.
C'est rien, quoi.
Alors aujourd'hui, les GG, les locataires dont les revenus dépassent le plafond de 20% payent un surloyer. Et un nouveau texte prévoit qu'ils payent automatiquement sur ce surloyer dès qu'ils dépassent les plafonds, même de 1%. Ce n'est donc pas le cas aujourd'hui. Les règles d'expulsion pourraient aussi changer. Aujourd'hui, il faut que les locataires soient 50% au-dessus du plafond pour être expulsé. Bientôt, il suffira de dépasser de seulement 20%. Bon, pourquoi on s'en fout pas, Barbara ?
Non, on s'en fout pas parce que le sujet du logement social, c'est un sujet important. On en manque apparemment puisqu'il y a énormément de gens qui sont sur liste d'attente. Je ne sais pas si, à part du ministre du Logement, c'est très pertinent de cibler... Après, je ne suis pas du tout d'accord pour que des gens qui explosent les plafonds restent dans les logements sociaux. Ça me paraît évident que moi-même, au-dessus de 10%, tu dégages. Enfin, je veux dire, il y a trop de gens qui attendent. Néanmoins, qu'on médiatise et que le ministre s'exprime aussi largement sur une proportion aussi faible... Ça, j'ai l'impression qu'il est en train d'essayer de faire un contre-feu avec un élément qui n'est pas l'élément fondamental de cette problématique des logements sociaux. Voilà,
il devait peut-être rendre des comptes puisque c'était devant la commission.
Étienne.
Oui, rendre des comptes.
Alors, il faut savoir que le logement social, c'est une sorte de gestion de la population au sein des villes, hein. Et donc aujourd'hui, il y a plusieurs types de logements sociaux. C'est au moment de la préfecture, au moment où tu construis ton logement social, tu décides s'il est de type 1, type 2, type 3. En général, c'est toujours de type 3, c'est-à-dire c'est pour des gens finalement qui sont de plus en plus aisés. Donc en fait, aujourd'hui, logement social, ça ne veut absolument plus rien dire. Ça ne veut rien dire. Ça voulait dire quelque chose au moment où il a fallu construire en rapide des cités de transit en carton, et on a fait des trucs en carton.
Type 3, c'est pour les classes moyennes, en réalité.
C'est pour les classes moyennes. Or, tu sais très bien que quand tu vas les construire, tu vas avoir des loyers autour de 2000 euros à la place de 2005, 2006 dans le privé, et que ça va permettre à des gens de venir et qui vont déposer un dossier. Mais ça permet justement de sélectionner une population. Tu construis à la fois tes logements sociaux, puisque c'est une obligation, même si des villes comme Saint-Maur refusent de le faire. Tu construis quand même ton logement social, donc tu ne payes pas l'amende, mais en même temps, tu sélectionnes un ayant les gens qui sont les plus aisés des gens les moins aisés, si je puis dire. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas habiter à Paris parce que pour habiter à Paris, aussi pour gagner 10 000 balles par mois.
Pour être sûr aussi d'avoir des ménages qui vont payer.
Il y a 50% de gens qui ne payent pas les loyers.
Non, c'est pas vrai.
Sur les deux, c'est une goutte d'eau. C'est une goutte d'eau. Il y en a un paquet qui ne paye pas les loyers.
Non, bien sûr que non.
Mais tu rigoles ?
Écoute-moi,
j'ai discuté avec les gens de 3
ans. Il y en a plein, c'est pour ça qu'on prend des ménages qu'on paye.
Mais vous rigolez ou quoi ? Mais vous plaisantez, moi j'ai discuté avec les patrons de 3F et les habitats sociaux, etc. Je peux te dire qu'il y a un paquet de gens qui ne payent pas. Non, moi je trouve que c'est une goutte d'eau. Et effectivement, on ferait mieux de construire et d'obliger les villes plutôt que payer les pays. Mais c'est ça. Là.
On règle le logement
comme ça.
Est-ce que loger les Français, c'est une mission régalienne de l'État ? Moi, je ne crois pas. Moi, je pense que les Français, s'ils étaient suffisamment payés, se logeraient par eux-mêmes. S'il y a effectivement assez de logements, mais il faut laisser aussi les logements neufs se construire. Il faut être moins de normes,
aussi...
plus de permis de construire.
Mais qui les fait venir ?
Et si on donnait plus Olivier, de garanties aux Français de se démerder ?
Olivier, qui les fait venir en région parisienne ? C'est quand même l'État qui oblige les gens à venir en fermant toutes les entreprises.
L'État n'oblige rien.
Mais si, il y a la désertification de la province, c'est quand même du.
C'est pas l'État qui a
si, c'est quand même une politique étatique.
Salaire, conditions de travail, manque de moyens, le ras-le-bol des sapeurs-pompiers qui sont en grève aujourd'hui partout en France. Ils manifesteront cet après-midi à 14h, place de la République à Paris, pour de meilleures conditions de travail. On s'en fout ou pas, Barbara ?
Pas du tout.
Étienne, tu t'en fous ?
Pas du tout, et soutien.
Bruno ?
Oh ben, total. Oui.
C'est
total
la première fois que les 9 organisations syndicales s'unissent. Elles réclament une revalorisation de la prime de risque, une prime JO comme pour les policiers. Elles dénoncent aussi des missions qui ont changé au fil des années. Ah ouais. Bien éloignées des incendies, du malaise à domicile, à la chute en trottinette en passant par les bagarres. Une profession victime aussi de plus en plus d'agressions, Bruno.
Aussi exposée que les policiers, alors qu'ils ont une mission de secours. Hein, et on en a 250 000, grosso modo, de pompiers en France et 50 000 de professionnels. C'est énorme hein, pour notre sécurité. Oui, c'est pas normal. Il faut, encore une fois, réévaluer leur niveau de salaire. Le problème, c'est qu'il faut le faire dans tout un tas de domaines. Et qu'à un moment donné, l'État, est-ce qu'on va pouvoir payer comme ça ? Je me pose la question.
Moi, j'ai été très sensible au fait qu'ils sont, ils sont confrontés au feu. Que le feu, ils respirent des matières absolument incroyables pendant les interventions, et donc on n'a pas le matos pour l'instant, on n'a pas mis vraiment le matos maximum pour leur permettre de pas respirer ces saloperies-là, et qu'ils ont des maladies professionnelles. Il y en a qu'une qui est reconnue aujourd'hui. Il y a énormément de maladies professionnelles.
Espérance de vie de 7 ans de moins que la normale.
Voilà. Et donc je pense que là il y a quelque chose à faire. C'est pas normal que dans le boulot, c'est un peu, je le dis aussi, c'est ce qui arrivera avec les agriculteurs en France dans quelques années à cause des produits utilisés. C'est la même. Hein.
Barbara.
Mais le problème, c'est que ces missions-là et ces corps de métier-là, qui sont des corps de métier au service de l'État, la mission d'intérêt public, la mission d'intérêt général la plus absolue, comme nos personnels dans les hôpitaux, comme nos policiers, dans une certaine mesure les enseignants, parce que même maintenant, même nous, ça devient un métier à risque, et les pompiers, c'est là que l'argent de l'État doit aller, que nous, l'argent des impôts doit aller. Or, l'argent, il est parti n'importe où. C'est pas que Macron, c'était avant, Sarkozy, Hollande, tout pareil. Maintenant, l'argent, il est parti là où il ne devait pas aller. L'argent, il doit aller dans le régalien et dans ces missions-là. Soutien total aux pompiers. Et moi, je dis, les pompiers, ils devraient faire une vraie grève. Tant qu'ils ne feront pas la vraie grève...
Pas aller sauver les gens.
Voilà. 24 heures de vraie grève. C'est bien dommage, parce que c'est comme ça qu'on obtient quelque chose. Parce que ça fait 20 ans qu'ils font grève avec des brassards.
Ils ont de l'éthique, les pompiers.
C'est pas ça. Mais moi, je te dis, à l'hôpital, pareil, les infirmières... Les infirmières avec le brassard, elles n'obtiennent rien. Les aides-soignantes avec les brassards, ils n'obtiennent rien.
Déjà, faut pas envoyer les policiers, déjà. Faut pas envoyer les CRS contre les
pompiers. Allez, c'est arrivé.
Oui, mais par nécessité, parce qu'il y a eu des manifestations de pompiers ultra violentes.
Les pompiers,
je veux bien protéger les pompiers.
Les pompiers ne fassent pas grève pour atteindre un incendie, etc. D'accord. Mais pour aller ramasser la trottinette, moi je suis désolée, je fais pas la grève du zèle. Le pompier, il ramasse pas la trottinette et il vient pas faire les points de suture d'un gamin de 5 ans qui est tombé.
Après son
arrivée triomphante à Marseille, la flamme olympique est en train de traverser la France, mais elle ne passera pas à Lyon, troisième ville de France. Pourtant, la mairie écolo a dit non. Les habitants de la métropole se désolent de la situation. La ville a refusé de débourser les 180 000 euros nécessaires pour accueillir le flambeau comme 37 autres départements.
Pourquoi on s'en fout pas, mon cher Étienne?
Ah bon,
on s'en fout complètement.
Non, mais ils s'en foutent surtout des Jeux Olympiques.
Barbara, elle s'en fout.
Complètement.
Non, c'est le côté. Voilà. Mais encore une fois, les positions radicales de ces élus de gauche, écolo et compagnie, qui vont se démarquer. On va économiser 180 000 euros. Non. C'est un moment exceptionnel dans notre pays que d'accueillir les Jeux Olympiques. Je trouve ça encore une fois lamentable.
Ce qui est drôle, c'est que à Paris, les écolos sont comme à Lyon contre les Jeux. Alors que la maire socialiste Hidalgo est pour. Donc quand t'entends l'un, c'est génial. Quand t'entends l'autre, c'est abominable. C'est assez drôle à suivre. C'est vraiment un drôle de spectacle.
C'est lamentable.
Je sais pas, 180 000 euros, c'est une somme. Je sais pas. Je me rends pas compte si c'est un truc politique pur Je trouve ça un peu con-con par rapport à la joie que ça aurait pu procurer à des mots.
Le maire de Lyon, c'est pas le mec le plus joyeux non plus.
Non.
C'est peut-être parce qu'il aurait voulu que ce soit la drag queen qui vienne là. Il aurait accepté. C'est mon maire.
T'as une haine en toi.
Non, c'est que ça allait avec son idéologie. Et là, peut-être que oui, ça lui aurait convenu.
Tu ne détestes pas, en fait, pas à part les chiens.
Non.
À part les chiens et les chats.
Non, tous les animaux, ça c'est sûr.
Les animaux, voilà.
Ça c'est sûr que j'ai plus de respect pour certains animaux non humains que pour certains animaux humains.
Dans un instant, avec les GG, avec les grandes gueules, on va regarder ce qui s'est passé à la RATP avec des agents qui avaient bénéficié d'arrêt maladie, de complaisance. Ça leur permettait d'être... Qu'est-ce que j'ai dit? À la RATP, oui.
Ouais, je dis, mais je crois qu'il n'y a pas que la RATP.
Non, justement. Mais parlons de la RATP, parce que c'est l'info RMC, avec ses agents donc qui bénéficiaient d'arrêt maladie, de complaisance, qui faisaient VTC à côté. Et pareil, dans la fonction publique, on a suffisamment de temps libre, par exemple les policiers aussi, pour pouvoir faire des petits accords.
Pardon,
SNCF.
Allez, mais alors, venez nous le dire si vous le faites. Venez témoigner au 32-16.
Travail au week-end.
RMC, jusqu'à midi.
Les grandes gueules. Tous les samedis et dimanches, de 6h30 à 9h30, c'est la matinale week-end sur RMC. L'info, le sport, toutes les demi-heures, des invités au plus près de l'actu, mieux manger avec Perico Legas et vous au 32-16. La matinale week-end, c'est demain et dimanche, dès 6h30 sur RMC.
La matinale week-end sur RMC avec l'imprimante Realipix Mini P2 d'Agfa Photo. Imprimante au format de poche qui imprime instantanément les photos de votre smartphone.
RMC.fr et appli RMC.
RMC en direct, partout, tout le temps.
RMC Escrime. Du 17 au 19 mai, c'est le Challenge Monal. La Coupe du Monde d'épée hommes accueille les stars mondiales de l'escrime à Saint-Maur-des-Fossés. Encouragez le champion olympique Romain Canon et ses partenaires de l'équipe de France pour la dernière épreuve sélective avant les Jeux Olympiques. Info et résa sur ffescrime.fr. Le Challenge Monal. Du 17 au 19 mai avec RMC.
Il a fait tourner la roue RMC.
Bonjour.
Bah déjà, vous êtes de bonne humeur, vous êtes content d'être avec nous. Allez, go Anaïs, fais tourner. 10 000 euros.
Oui.
10 000 euros.
Yes.
Bien joué.
Vous avez eu raison.
Maintenant, c'est à votre tour.
Jusqu'à 20 000 euros par jour à gagner sur RMC. Pour jouer, dès que vous entendez.
Envoyez Roux par SMS au 732-16.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
Roux au 732-16.
Sur RMC, la nuit, RMC, c'est le meilleur de la journée. Rediff.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules sur RMC, RMC Story, discussion, débat, témoignage avec vous tous les jours entre 9h et midi avec notre trio Barbara Lefebvre, Étienne Yebig, Bruno Pomard. On vous attend au 32-16 dans un instant à 10h20 pour dire si oui ou non. Alors là, en toute franchise, et vous risquez d'affronter Barbara. Si oui ou non, vous faites rater l'école à vos enfants pour pouvoir partir en vacances ou payer les billets moins chers. Visiblement, la pratique est de prendre l'importance d'année en année. Donc, 32-16 pour le dire au GG. Et d'abord, on va s'intéresser à ceux qui sont dans la fonction publique, à la RATP ou à la SNCF ou dans la police et qui profitent de leurs jours de repos pour faire, ou de leurs arrêts maladie, pour faire des boulots à côté.
RMC, les grandes gueules.
En fait, c'est une information à RMC. C'est Victor Joannin qui a enquêté du côté de la RATP. Et c'est une trentaine d'agents qui étaient en arrêt maladie et qui devenaient chauffeurs VTC en parallèle. On a le patron de la RATP, M. Castex, ancien Premier ministre, qui a réagi.
C'est une pratique ancienne que ces métiers à horaires décalés, que la possibilité leur soit offerte.
C'est légal.
C'est légal, c'est ancien. Ce qui n'est pas du tout, c'est que on soit en arrêt maladie dans la partie RATP de cette activité et que sur l'autre partie, on puisse travailler. Bon. Et ça, nous l'avons cherché et donc nous avons mis à jour par des contrôles renforcés des pratiques qui, elles, sont clairement irrégulières et qui donneront donc lieu à des poursuites, voire à des licenciements. Mais que le taxi, c'est
ça.
C'était donc Jean Castex chez nos confrères de RTL. Alors, est-ce que ces pratiques sont courantes, vraiment courantes? 32-16 pour en parler avec les GG.
Visiblement, il paraît que tout le monde le sait. Donc Jean Castex fait mine de découvrir un phénomène qui est en place depuis ancien. Longtemps. Alors comme il vient d'arriver, dont acte, il va mettre fin à ce système. Et effectivement, il y a des agents.